BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct pour cette émission BFM Crypto, le club, avec mes invités Tanguy Le Calvet, fondateur et président de Going. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
À vos côtés, Stéphanie Némarcatias, fondatrice de Commit. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Sandra.
On va parler fiscalité avec vous dans un instant, évidemment. Et Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie et de la communication chez Bitstack. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
On va parler de MiCA, on va parler de ce que ça implique pour le secteur, cette réglementation, de ce que ça va demander, ce que ça a demandé aux entreprises. Et puis on parlera aussi, je l'ai dit, de fiscalité, de l'agenda, de l'administration qui est complètement au taquet sur nos déclarations, de vos obligations aussi dans cette période. Très gros programme. Vous continuez aussi à nous poser vos questions sur notre adresse crypto au singulier à bfmbusiness.fr. On y répond, vous le savez, tous les jeudis. BFM Crypto, le club, c'est parti. Tanguy, vous vouliez revenir sur cette échéance du 30 juin, cette obligation pour les acteurs du marché crypto d'obtenir l'agrément européen MiCA. On parle ici carrément, et on va y revenir, de la survie de leur activité.
Absolument. On est le pays qui avait, parmi les pays qui avaient demandé une période transitoire la plus longue qui était autorisée par la réglementation européenne.
18 mois.
18 mois.
Ouais.
Et ça s'arrête le 30 juin. Et tous les acteurs qui n'auront pas obtenu l'agrément MiCA sont censés arrêter de fournir leurs services, des services sur cryptoactifs. La réalité, c'est qu'ils devraient même commencer aujourd'hui à organiser la cessation de leurs activités, puisque dans la réglementation, il y a une période de 3 mois qui est donnée pour arrêter une activité réglementée et de manière organisée.
Concrètement, les acteurs avaient jusqu'au 30 mars en réalité pour vraiment encore présenter un dossier. Mais on l'a dit dans cette émission, les dossiers et les pièces à rapporter et à rajouter, c'est très long. Il y a des très gros délais. Il faut que ça rentre justement avant le 30 juin, tout ça.
Ah bah, c'est sûr que si vous n'avez pas déposé un dossier aujourd'hui,
c'est mort.
On ne passerait pas pour le 30 juin. Je pense qu'il fallait même l'avoir déposé il y a quelques temps pour avoir une chance de passer avant le 30 juin. Parce qu'il y a encore, je crois, beaucoup de dossiers qui sont en cours d'instruction à l'AMF. Ils communiquent sur 20 ou 30, je crois, d'après les dernières informations que j'ai vues. Donc ça fait beaucoup de dossiers à traiter dans les 3 mois qui restent, avec peu de collèges.
20 ou 30 encore à traiter, en plus des 14
qui ont été déposés auprès de l'AMF. Combien vont aboutir, je ne sais pas.
Parce que là, actuellement, sur les 90 prestataires agréés MiCA, en France, 14 l'ont été par l'AMF.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire que les autres l'ont été dans un autre pays de l'Union européenne.
Absolument. Tous les autres ont bénéficié du passeport européen qui est permis grâce à cette réglementation européenne.
Est-ce que ça change quelque chose pour les acteurs ?
Ça fait de la concurrence, clairement, puisqu'on a un marché européen ouvert et puis il y a des acteurs crypto de taille significative qui ont choisi d'aller obtenir des agréments à l'étranger et qui ont la capacité financière et commerciale de venir chercher des clients en France.
Qu'est-ce qui est demandé davantage par l'AMF qui n'est pas demandé par les autorités des autres pays ?
En théorie, rien. Mais on a un régulateur qui est extrêmement pointilleux. C'est un des régulateurs les plus puissants sur la place financière européenne. Ils ont un risque de réputation, donc ils font les choses méticuleusement, je dirais, et ils donnent des agréments au compte-gouttes.
Et on a ici sur ce plateau deux acteurs qui ont eu cet agrément MiCA. Il y a un an quasiment, vous l'avez eu très tôt finalement tous les deux, aussi bien Goin, deuxième acteur français, que Bitstack, troisième acteur français, à obtenir ça il y a presque un an.
Il y a un an, et en étant, en tout cas Bitstack aussi je pense, mais on est des sociétés, on est des start-up, on n'est pas des groupes bancaires avec des moyens colossaux, donc comme on l'a dit déjà par le passé, ça montre que c'est possible d'obtenir cet agrément avec une équipe start-up et des moyens de start-up.
Racontez-nous un peu tous les deux comment ça s'est passé, on va revenir un petit peu dans le passé, mais le temps que ça a pris, les équipes que ça a pris, le dossier, enfin, j'ai entendu parler d'un dossier de 500 pages aujourd'hui, on m'en a encore parlé, c'est quand même colossal l'effort que ça demande à l'entreprise.
Absolument, nous ça nous a pris la préparation du dossier, les audits techniques de cybersécurité, tout ça nous a pris à peu près un an et demi. Alors parce que nous on a été agréé PSAN avant, donc ça, c'était pour le
dossier. Vous aviez préparé déjà une partie.
Donc c'est la préparation du dossier d'agrément PSAN nous a pris un an et demi. Ensuite, pour faire la transition vers MiCA, comme 90% du dossier était prêt, ça a été un petit peu plus simple.
Ouais.
Mais oui, c'est un travail colossal et je pense que le travail sur la cybersécurité est extrêmement important et doit être fait méticuleusement.
Chez Bitstack, ça a pris combien de temps ? Ça a pris combien d'hommes en plus ?
Les ressources engagées, en fait, on est dans ces ordres de grandeur-là, c'est entre 6 mois et 1 an,
ouais.
Globalement. Après, ça dépend de l'accompagnement, des ressources mobilisées, humaines, externes, cabinet d'avocats, audit de cybersécurité, etc. Ça dépend aussi, je pense, pour un certain nombre de startups. Il y a aussi un côté, souvent on parle de legacy, quand on a construit un outil en n'anticipant pas la réglementation, on se crée une charge supplémentaire de faire des migrations vers une nouvelle façon de fonctionner qui respecte cette réglementation. Bitstack a été fondé en 2021-2022, donc en fait, à ce moment-là, il y avait déjà le régime PSAN, et donc dès la construction, c'était d'anticiper pour être le plus rapidement possible avec cette stratégie où, pour l'entreprise, c'était pas... Ah, de toute façon, c'est là, donc il y avait un côté, autant ne pas le percevoir comme un coût, mais comme un investissement. On va investir des ressources, mais derrière, on pourra montrer patte blanche, créer de la confiance chez les utilisateurs. D'un point de vue de la cybersécurité, on l'a mentionné, du contrôle sur les fonds, des fonds propres. Et donc, ça a été anticipé, et c'est pour ça qu'on l'a eu si tôt. On l'a dit, il y a des acteurs bancaires, effectivement, qui ont mis plus de temps à l'avoir aussi, parce que c'est pas forcément dans leurs priorités non plus, hein, donc c'est pas les mêmes priorités pour tout le monde. Mais je dirais qu'il y a quand même plusieurs façons de l'analyser. Du point de vue de l'entreprise, évidemment, une fois qu'on l'a, c'est une forme de totem pour dire aux clients, écoutez, on est sérieux, c'est pas juste un enregistrement, parce que, on l'a dit pendant un temps, il y avait un régime d'enregistrement en France qui venait vérifier la lutte anti-blanchiment, mais qui ne donnait absolument aucune garantie sur le reste. Là, on est sur un régime supérieur. Certains parlent d'équivalence, en tout cas d'équivalence semi-bancaire, très proche de ce qui peut être exigé pour les banques dans un certain nombre de domaines. Donc, le niveau de sécurité, que ce soit cyber, sur les fonds, sur le blanchiment, etc., est très élevé. Et donc, pour le consommateur, ça donne une forme de réassurance. Maintenant, si on élargit, la problématique qui a été souvent mentionnée à l'échelle de l'écosystème, c'était plutôt le timing, c'est-à-dire, factuellement, on est sur un écosystème financier, donc on doit se diriger vers de la maturité de la réglementation. Et les banques, jusqu'à une certaine mesure, ont raison en disant que s'il y a des activités similaires, elles doivent être encadrées de la même façon. Mais la critique du timing, c'est de dire, attendez, si vous mettez trop de réglementation trop vite, on va avoir le pire de tous les mondes, puisque l'écosystème local va être étouffé. Les acteurs étrangers, l'autorité des marchés financiers n'a pas les moyens, elle pourrait le vouloir, mais elle ne peut pas se déplacer parfois dans des juridictions offshore pour contrôler que sa réglementation est mise en place. Et donc, on se retrouvait avec une forme de ventre mou où des acteurs étrangers non conformes pouvaient opérer plus facilement en France que des acteurs français qui se pliaient au jeu de la réglementation. Donc là, la leçon à retenir, c'est plutôt de se dire, cette réglementation, elle est en place. A priori, on ne va pas revenir dessus. Il y a eu un calendrier qui a été de 18 mois pour faire la transition, donc c'est suffisant pour les acteurs sérieux qui veulent s'y mettre.
Ouais.
Maintenant, essayons de ne pas tout de suite repartir, comme l'Europe a souvent tendance à le faire, à se dire, OK, maintenant qu'on a fini la réglementation, on passe directement à la case suivante, en se disant que si on n'est pas en train de créer une nouvelle loi, c'est qu'il y a un problème. Non, dans la loi, il y a aussi le fait qu'on doit pouvoir analyser le résultat des politiques publiques avant de passer à la suivante. Donc ça me chagrinerait qu'on se dise qu'on a déjà pas MiCA 1 qui est en place, enfin il est en vigueur, mais il y a encore cette fenêtre, donc on n'a pas la capacité d'analyser ce qui était positif et négatif, qu'on est déjà en train de faire MiCA 2. Donc il faut regarder ça avec sérieux et regarder à la fois pour balancer la compétitivité du secteur et la protection évidemment des consommateurs.
Oui, la compétitivité, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, je ne sais pas combien d'ailleurs, qui vont disparaître dans cette histoire. Il y en a effectivement qui vont avoir l'agrément d'autres pays, qui aura peut-être moins de compétitivité aux yeux des investisseurs français. Et il y en a carrément qui ne vont pas du tout survivre.
Très probablement.
Tanguy.
Il y avait 120 ou 130 sociétés qui étaient enregistrées PSAN, donc il y avait des activités de services sur cryptoactifs. Et oui, je pense que là, on est sur peut-être une trentaine, une quarantaine, je ne sais pas dire exactement combien, mais ça fait un gros tiers, deux tiers qui vont disparaître, en tout cas qui n'ont plus le droit d'exercer.
Et pour ceux qui restent, dont vous faites partie, est-ce que, je sais bien qu'on voit, voilà, c'est un peu opportuniste, mais est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est une opportunité de prendre des parts de marché? Malgré tout, il faut le dire, le fait d'avoir cet agrément, d'avoir cette crédibilité, ça va vous permettre d'avoir plus de clients.
Absolument, c'était une décision stratégique chez Goin, hein, d'aller chercher les agréments très rapidement.
Oui.
On s'est mis en ordre de marche pour ça très tôt. D'ailleurs, je rappelle souvent qu'on a été enregistré PSAN, agréé PSAN et avant d'obtenir l'agrément MiCA, donc on a un parcours européen unique dans ce domaine-là. Et puis, si on regarde un petit peu la concurrence, on a une gamme de services qui est très complète chez Goin aujourd'hui. On a 7 services régulés. Et si on regarde la partie gestion de portefeuille, pour compte de tiers notamment, qui concerne notamment les investisseurs particuliers qui souhaitent avoir un portefeuille en crypto, il n'y a que 4 sociétés françaises qui ont cet agrément. Alors, si on cumule les passeports, on doit arriver à environ 15. Mais oui, ça fait beaucoup moins d'acteurs, de compétiteurs sur ce segment.
Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, quand vous parlez de l'agrément MiCA, vous mettez beaucoup en avant la cybersécurité. On sait que c'est un vrai problème aujourd'hui, la cybersécurité dans les cryptos, mais ailleurs aussi. Hein, les entreprises, quoi qu'il arrive, quel que soit leur secteur, luttent pour éviter les attaques. C'est l'avantage principal de cet agrément. C'est celui que vous placeriez en numéro un, Alexandre ?
Facing consommateur, ouais. Oui. Je pense. Après, peut-être à égalité avec d'autres typiquement les fonds, pas la garantie, mais l'existence de fonds propres et que la société est solide ou d'assurance. Mais sur les cryptos en particulier, c'est extrêmement important. On l'a vu entre les fuites, les attaques physiques, etc. Avoir une garantie. Alors, je dis garantie dans la réalité. La garantie n'existe pas dans la cybersécurité. Il y a toujours des failles, ce qu'on appelle zero day ou des hackers qui sont particulièrement sophistiqués et qui font une attaque qui n'a jamais été vue, etc. Mais ça donne un niveau de réassurance, pour le dire comme ça, par rapport à ses données personnelles, par rapport à la sécurité de ses avoirs, qui est, à mon sens, et ça fait des années qu'on le dit, avant même qu'il existe une réglementation. Souvent, quand on orientait quelqu'un vers une plateforme, on avait tendance à dire, première chose à regarder, la sécurité, fait une due diligence sur les fondateurs. Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'honorabilité des dirigeants? Donc, s'ils sortent de nulle part et qu'ils ont un casier judiciaire long comme le bras, c'est peut-être pas pareil que si c'est des personnes qui ont travaillé dans la finance, qui ont une bonne réputation, etc. Et la cybersécurité fait évidemment, notamment sur des actifs numériques, fait partie de ce qui devrait être des priorités. Donc, côté consommateur, ça donne quand même un niveau de réassurance. Mais évidemment, je réinsiste qu'on peut malheureusement jamais dire que le risque zéro existe en cybersécurité.
Oui, non, parce que c'est le chat et la souris. Hein. De toute façon, c'est toujours le voleur qui a de l'avance. Tanguy ?
Moi, je pense qu'on est sur une classe d'actifs où la cybersécurité est un élément extrêmement sensible. Oui. Et puis, comme vous le disiez, on voit tous les jours des plateformes qui se font voler des données, etc. Et on a l'opportunité ici d'avoir des nouvelles technologies qui font marcher la finance, des infrastructures financières et qui sont extrêmement sécurisées, en tout cas du mieux qu'on puisse le faire aujourd'hui. À l'époque où on parle de risque quantique, etc., c'est important d'avoir ce type d'infrastructure et de vraiment traiter les sujets de cybersécurité avec beaucoup de précision.
Est-ce que ça va vous apporter l'un et l'autre d'ailleurs un avantage par rapport à une plateforme comme Binance, qui est quand même l'une des premières auxquelles on pense si on veut s'inscrire parfois en crypto? Alors maintenant, vous pensez français, mais Binance n'a pas eu l'agrément en France. Elle l'a eu en Europe. Elle l'a eu en Europe ou pas encore?
Pas encore.
Est-ce que ça va
partie des 30 dossiers
probablement. Est-ce que ça va déporter une partie des nombreux clients Binance sur des entreprises françaises peut-être?
Ben oui, ça devrait normalement fonctionner comme ça. En tout cas, je recommande aux clients français de bien choisir leur prestataire de service et évidemment d'aller consulter les listes des sociétés agréées avant de signer un contrat.
Alexandre. Oui, mais je le vois pas vraiment sous cet angle-là. C'est plutôt, je ne considère pas que Bitstack propose le même service que Binance.
Oui.
Donc, d'une certaine façon, il y aura probablement, si jamais ils venaient à ne pas avoir l'agrément, je pense honnêtement qu'ils l'auront, mais on ne sait jamais. S'ils venaient à pas l'avoir, bah oui, il y aura probablement une forme de cascade, de ruissellement, comme on parle en économie, vers d'autres plateformes.
Ouais.
Nous, on considère que les personnes à qui on parle chez Bitstack, c'est les épargnants du quotidien, discipline financière. On propose que Bitcoin. On favorise pas particulièrement le trading. On fait des arrondis. On a une carte bleue, etc. Une carte de débit. Binance s'adresse plutôt à des traders. Propose des milliers de cryptos différentes. Propose parfois des effets de levier, des produits financiers complexes. En fait, on s'adresse pas du tout à la même cible. Donc, nous, ça va pas changer notre discours particulièrement. Si des personnes se retrouvent dans notre discours, bah, tant mieux. Mais je pense qu'il y a une partie substantielle qu'ils ne trouvera pas chez nous, ce qu'ils pouvaient trouver chez Binance. Mais c'est pas grave, ils trouveront ailleurs et c'est pas un drame.
Pour autant, est-ce que vous n'allez pas à un moment vous adresser à ces personnes qui se retrouvent dans des plateformes qui vont fermer dans quelques semaines?
Oui.
Et essayer de justement leur proposer vos services et les attirer malgré tout.
Pour moi, c'est l'occasion de. Mais là, je le prends d'un point de vue plus générique. C'est l'occasion de tenir un discours que je tiens depuis un certain temps à une partie des gens qui sont allés dans la crypto, de leur dire écoutez, si vous êtes en train de changer de plateforme, c'est l'occasion aussi de repenser la façon dont vous abordez ce sujet-là. Est-ce qu'il y a Bitcoin? Est-ce qu'il y a le reste? Est-ce que vous voyez long terme ou est-ce que c'est pour du court terme et du trading? Et d'essayer, alors évidemment, à mon humble niveau, de les convaincre qu'il vaut plutôt aller en tant qu'épargnant responsable vers le long terme et sur Bitcoin. Et si c'est le cas, on propose un service qui est très attractif d'un point de vue de la simplicité, ouais, etc. Donc, de venir effectivement essayer.
Et vers d'autres produits, Tanguy.
Ou vers d'autres
produits. Ah oui, parce que vous ne faites pas que Bitcoin.
Nous, on fait plus que le Bitcoin. On propose 35 actifs à l'investissement. On fait des mandats de gestion donc, qui sont particulièrement adaptés à des investisseurs retail qui ne connaissent pas bien le secteur. Et comme je le disais tout à l'heure, on est très peu nombreux à avoir cet agrément en France. Nos services s'adressent à ces gens-là.
Investissez français, hein, c'est ce qu'on a envie de dire à partir de maintenant.
Exactement.
À partir du mois d'avril.
Hein, épargnez français.
Épargnez français, effectivement. On va parler de fiscalité aussi dans cette émission. Stéphanie, vous êtes là. On va parler déjà de calendrier. C'est quoi le calendrier de cette période fiscale merveilleuse qui va s'ouvrir ?
On arrive justement à la campagne des déclarations d'impôt sur le revenu 2025 qui s'ouvre ce jeudi 9 avril. Et donc, comme vous le savez, chaque année, chaque résident d'un département a une date limite pour effectuer sa déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, c'est l'occasion de se pencher un petit peu sur, justement, les opérations effectuées en 2025, notamment pour les détenteurs de cryptoactifs, et de s'y pencher relativement tôt, parce qu'on découvre des complexités qu'on n'avait pas forcément anticipées.
Oui, ça change tous les ans,
voilà.
C'est chouette.
Et ça prend un petit peu de temps de gérer ces sujets-là. Donc, on voit encore, malheureusement, beaucoup d'erreurs. Qui sont pas vraiment intentionnelles, hein, c'est pas de la fraude, c'est plutôt une méconnaissance des règles qui s'appliquent ou des oublis de comptes à l'étranger ou de wallets, qui sont peu actifs. Et tout ça, ça crée quand même du risque en cas de demande de l'administration,
oui,
de contrôle.
Oui, ça crée du risque et peut-être effectivement un risque de contrôle. Vous avez dit 9 avril, ça commence et ça se termine quand? C'est juin
pour les derniers, c'est début juin.
Voilà, exactement. Justement, les contrôles fiscaux, il y en a de plus en plus, notamment si on détient des crypto-actifs, l'administration elle est quand même particulièrement attentive.
Oui, on a pu constater que sur les comptes sur actifs numériques, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Il y a évidemment des équipes de vérificateurs qui sont de mieux en mieux formées sur ces sujets-là. Donc maintenant, il faut être de plus en plus précis et surtout avoir une traçabilité des opérations. C'est utile non seulement pour faire sa déclaration, mais aussi pour répondre à l'administration fiscale quand il y a des demandes d'historique, etc. Donc, il faut être assez carré. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser ce sujet en pensant qu'il y a une zone grise. C'est vraiment assez clair. Il y a évidemment encore des typologies de revenus sur crypto qui ne sont pas parfaitement définies. Mais dans la majorité des cas, on est en capacité aujourd'hui de faire sa déclaration d'impôt.
Comme vous l'avez dit, ça évolue chaque année. Et ne serait-ce que par rapport à l'année dernière, c'est quoi les changements? Parce que l'année dernière, c'était quand même moyennement clair. C'était la première fois qu'il fallait, je vais rire Alexandre, qu'il fallait fournir notamment tous les échanges, toutes les opérations qu'on avait faites sur une année. Je ne me trompe pas.
Alors,
il y a eu des évolutions.
C'est un peu particulier. On a les obligations côté contribuable et on a les obligations côté plateforme. Alors, les plateformes, elles, aujourd'hui, elles ont une nouvelle obligation depuis le 1er janvier 2026. C'est de fournir le détail de leurs utilisateurs et de toutes les opérations qui ont été faites. En revanche, côté contribuable, côté particulier, on n'a toujours pas cette obligation-là. Hein. L'obligation qu'on a, c'est déclarer ses comptes, ses wallets à l'étranger, et aussi calculer ses plus-values et ses moins-values sur un imprimé spécifique pour savoir est-ce qu'on a une plus-value taxable si on fait des opérations d'achat-revente et également si on a d'autres types de gains qui sont liés aux crypto-actifs, comment on les traite. Tout ça aujourd'hui, c'est d'actualité, mais on n'a pas à fournir en tant que particulier spontanément un historique de toutes les transactions.
Oui, mais pour calculer ses plus-values et ses moins-values, il faut s'être penché sur cet historique-là. Messieurs, c'est une petite nouveauté aussi, une petite truc à faire en plus sur la to-do list de cette année.
Absolument, mais ça c'est quelque chose qui est déjà fait par tous les prestataires dans la finance traditionnelle. Oui. Calculer des plus-values et les transmettre directement à l'administration, c'est la pratique courante dans la finance traditionnelle. Sur la crypto, on n'en est pas encore là, mais je pense qu'on y gagnerait beaucoup à aller vers ce type de modèle, parce que tel que c'est fait aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué pour un particulier de remplir sa déclaration et de calculer ses plus-values. Je pense même que c'est quasiment impossible.
Incroyablement difficile, oui, effectivement. Il y a des acteurs qui font ça, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué de le faire tout seul, Alexandre.
Ouais, alors déjà, première chose, c'est que Depuis le 1er janvier, effectivement, les plateformes ont l'obligation de transmettre, mais du coup, ça ne s'appliquera que pour la déclaration de l'an prochain. Donc, si vous faites votre déclaration de cette année, n'oubliez pas de transmettre quand même, parce que les plateformes ne le feront pas nécessairement pour l'année d'avant. La deuxième chose, c'est qu'il y a, comme on l'a dit, une obligation de déclarer ses comptes à l'étranger. Donc, ça veut dire que, typiquement, tout ce qui est prestataire de services sur cryptoactifs en France, le fisc est déjà au courant que ce compte existe, donc il n'y a pas d'obligation déclarative, puisque en fait le fisc est déjà au courant. Et après, pour moi, il y a un enjeu sur la complexité, ça c'est évident, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit avant, parce qu'il faut regarder le coût moyen pondéré en fonction de si j'ai acheté il y a 5 ans, il y a 6 ans, sur telle plateforme, etc. Et je pense qu'une partie de cette complexité, alors je vais revenir avec ma marotte, mais une partie de cette complexité est due au fait que ça n'a rien à voir avec la fiscale, c'est du politique, entre guillemets, c'est que comme il y a un refus de considérer, par exemple, que Bitcoin a des caractéristiques qui le rapprochent d'une monnaie, puisque ce serait une forme de défaite politique, on ne peut pas admettre que c'est une monnaie. On se souvient, il y avait eu un ministre qui avait dit « Non, le Salvador, soyons sérieux, ce n'est pas vraiment un pays », alors qu'il avait fait du Bitcoin sa monnaie légale. Et donc, comme il y a ce problème-là, ça nous a conduit dans le droit français et dans le droit européen à considérer les cryptos comme une classe d'actifs. Et donc, on se retrouve avec, typiquement, une forme de niche fiscale. On ne sait pas combien de temps elle va durer, qui sont les stablecoins. Si on sort en stablecoin, il n'y a pas de plus-value puisque c'est un cryptoactif. Oui, mais c'est un cryptoactif stable contre l'euro. Donc, est-ce que c'est logique? On ne sait pas. Mais si on commence à le séparer, alors est-ce qu'on va séparer les restes? Et donc, se pose une question de, non pas de traçabilité simple, j'achète du bitcoin, je vends du bitcoin. Parce que si vous faites ça, mais que, entre temps, vous avez acheté de l'Ether et vendu de l'Ether, dans la réalité, les deux vont dans la même case. Et donc, c'est ça qui rend la chose quasiment impossible. Et c'est pour ça qu'il y a des outils spécialisés. C'est pour ça que je pense qu'il faut se faire accompagner par un fiscaliste. Mais je pense qu'il y a moyen de simplifier. Et en particulier sur l'aspect paiement, je pense que ça peut concerner et le Bitcoin et les stablecoins, avoir des abattements forfaitaires qui n'obligent pas, qui ne conduisent pas à avoir une obligation déclarative si on va acheter sa baguette de pain en Bitcoin. Parce que ça, vraiment, ça tue l'usage comme moyen de paiement, de se dire que si je vais acheter une baguette de pain, il faut que je regarde la plus-value rapportée à la moyenne de mon portefeuille.
Alors, on a quand même une petite tolérance.
305 euros.
Voilà, 305.
Mais il faut quand même déclarer.
Ça va quand même, la baguette peut passer.
Mais
ça
passe un certain nombre
de baguettes. Il faut déclarer effectivement la transaction, mais pas calculer la plus-value.
Non,
donc, c'est vrai que c'est limité. Mais effectivement, tout ce qui est paiement, c'est, on sait aujourd'hui que c'est la fiscalité qui bloque l'usage.
Et ça donne des conversations lunaires où, en fait, surtout les opposants viennent dire regardez, c'est pas une monnaie, les gens s'en servent pas comme paiement. Mais en fait, la fiscalité bloque l'usage comme paiement. Donc, quel est l'œuf, quelle est la poule. Et je pense qu'effectivement, si on fait tomber cette barrière, ce sera quand même beaucoup plus simple.
Et puis, il y a aussi un projet de loi antifraude drôlement rigolo. En discussion à l'Assemblée nationale, il contient quoi, Stéphanie?
Oui, c'est assez important d'en parler quand même parce que c'est un projet de loi donc relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui fait couler beaucoup d'encre, en particulier sur les sujets liés aux cryptos, et en particulier une mesure dont je pense qu'il faut qu'on parle aussi parce qu'elle a fait pas mal de débats à l'Assemblée nationale dans la dernière quinzaine. Et d'ailleurs, ce projet va être voté aujourd'hui même. Donc l'amendement dont on parle, c'est l'obligation pour les détenteurs de wallets auto-hébergés, donc type Ledger, de déclarer leur wallet à partir du moment où on a plus de 5000 euros sur ce wallet. Donc, on voit bien ici que, déjà, c'est extrêmement intrusif comme dispositif. On n'a pas vraiment l'équivalent sur d'autres types de biens qu'on pourrait détenir. Mais l'idée, en tout cas sous-jacente, c'est de dire on veut un maximum de transparence, on veut un maximum de possibilités pour l'administration fiscale de retracer les flux, mais aussi le patrimoine dans un but de lutte contre l'évasion fiscale. Alors, il y a beaucoup de débats. Pourquoi ? Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que c'est une obligation qui nécessite de réunir énormément d'informations extrêmement sensibles dans un fichier centralisé et donc de garantir la sécurité de ce fichier, ce qui est aujourd'hui extrêmement difficile. On voit qu'il y a énormément de cyberattaques.
L'administration fiscale a échoué déjà à maintenir cette sécurité.
On a pu voir par le passé qu'il y a eu des grosses brèches qui ont mis en danger énormément de détenteurs de cryptoactifs. Donc, si on réunit les noms de ces détenteurs plus la valeur de leur wallet, on peut très bien s'imaginer que ça va créer un risque supplémentaire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je dirais, le deuxième point, c'est que comment contrôler si un contribuable a bien déclaré ou non ce compte. Aujourd'hui, on n'en a pas la capacité. Il existe donc déjà des obligations d'information des plateformes. Est-ce qu'on a la nécessité de demander aussi aux contribuables de déclarer des portefeuilles auto-hébergés ? Moi, j'en suis pas convaincue. Je pense que, en fait, c'est trop de quadrillage.
On va très loin dans la surveillance,
voilà,
là.
Exactement.
Quand même. Et ce serait pour le contribuable et pour Ledger, par exemple ?
Alors, Ledger n'aurait rien à faire. En revanche, le contribuable aurait cette obligation. Et le sujet, c'est comment recouper l'information. Bon, on ne sait pas encore comment techniquement ce serait faisable. C'est pas vraiment le sujet, hein, technique, mais je pense que la sécurité des contribuables passe avant tout.
On en a déjà parlé dans cette émission. On va voir ce que ça donne, effectivement, sur cette décision. Et on y reviendra, on vous informera, évidemment. Merci à tous les trois. Cette demi-heure est passée beaucoup trop vite, comme d'habitude. Tanguy Le Calvez, fondateur et président de Goin. Stéphanie Neymar Attias, fondatrice de Commit. Alexandre Stachchenko, directeur de la stratégie et de la communication chez Bistac. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Sandra. Tous les trois. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse.
BFM Business, BFM Crypto, le club.